La philosophie réaliste, Claire Bressolette.
Bonjour, Saint Thomas d'Aquin vu par Jacques et Raïs Samaritain. Du docteur de l'école au docteur angélique et inversement.
Au milieu de l'église, le Seigneur lui a donné la parole pour enseigner et pour prêcher. Il l'a rempli de l'esprit de sagesse et d'intelligence, il l'a couvert de gloire. Puis il lit, comme si le saint parlait par sa bouche, ces versets tirés de l'Écriture. « J'ai désiré l'intelligence et elle m'a été donnée. J'ai invoqué le Seigneur et l'esprit de sagesse est venu en moi. Et j'ai préféré la sagesse aux royaumes et aux trônes et j'ai méprisé les richesses. J'ai résolu de prendre la sagesse pour ma lumière, parce que sa clarté ne peut s'éteindre. J'en fais part à tous et je ne cache pas les biens qu'elle renferme, parce qu'elle est un trésor infini pour les hommes. Et ceux qui l'ont reçue sont devenus les amis de Dieu et ils resplendissent des dons de la science. » À présent, le prêtre se tient du côté de l'Évangile et cette fois, comme parlant au nom de Dieu lui-même, il lit dans saint Matthieu « Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise devant les hommes, afin que, édifiés par vos bonnes œuvres, ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Puisqu'aux yeux de l'Église elle-même, l'ange de l'école est si grand, puisqu'il a si bien délivré son message de science, de sagesse et de sainteté, disons ensemble, Mia, et vous tous qui avez lu jusqu'au bout ce petit livre, disons de tout notre cœur l'oraison de la messe de saint Thomas. Ô Dieu, qui illuminez votre Église par la science admirable de votre bienheureux confesseur Thomas et qui la rendez féconde par sa sainte activité, accordez-nous la grâce d'avoir l'intelligence de ce qu'il a enseigné et d'accomplir à son exemple ce qu'il a pratiqué.
Par cet extrait de texte qui vient clore le petit fascicule écrit par Raïs Samaritain, l'ange de l'école ou saint Thomas d'Aquin, illustré par les dessins de Gino Severini, vous venez d'entendre la messe de saint Thomas d'Aquin, telle que Raïs Samaritain la rapporte. Pourquoi ouvrir cette deuxième émission sur saint Thomas d'Aquin vue par Raïssa et Jacques Maritain sur cette messe? Tout simplement pour faire le lien avec les qualités de saint Thomas d'Aquin, déjà décrites dans l'émission de la semaine dernière, et pour s'arrêter sur la fin, c'est-à-dire l'intelligence de ce qu'il a enseigné et accomplir ce qu'il a pratiqué. Il s'agit de l'apôtre de l'intelligence et en même temps d'une pratique. Laquelle ? Alors, la première chose à dire dans sa pratique, c'est que saint Thomas est quelqu'un qui prie. Et de ce fait, n'est pas quelqu'un qui va être attaché à son œuvre. Son œuvre vient de Dieu, elle est voulue de Dieu et elle ne concerne que Dieu. Il n'est qu'un passeur en quelque sorte. À tel point qu'à la fin de sa vie, il n'écrit plus et que la somme reste une œuvre inachevée. Ce n'est pas du tout un système. On pense à Kant qui écrit une première critique, la critique de la raison pure, et puis ensuite la critique de la raison pratique, et puis ensuite une troisième pour jeter un pont sur l'abîme, comme il dit dans l'introduction. Le pont sur l'abîme, c'est la faculté de juger. On sent quelqu'un qui essaie de faire un système. Ou Hegel, qui lui aussi cherche un système à partir de l'esprit comme force au travail dans l'histoire. Pas du tout cela chez saint Thomas d'Aquin, et pour une raison très simple, c'est sa vie unitive au Christ, c'est-à-dire sa vie de prière. Je reviens sur cet écrit de Raïssa qui raconte un événement majeur quant à cet inachèvement de la somme. Un peu avant, le 6 décembre 1273, Thomas eut une longue extase. C'est-à-dire que Dieu attira à lui toute l'attention et toute l'affection de son âme, et il le retint longtemps, comme une mère retient son enfant dans ses bras et le serre contre son cœur. Réginald, qui n'aimait pas voir son maître l'oublier plus que de raison, et qui avait peut-être un peu peur aussi de le voir mourir, le tira indiscrètement par sa chape. Le saint revint à lui, mais à partir de ce jour, il cessa d'écrire et de dicter. Réginald se désolait et lui disait « Comment pouvez-vous abandonner une œuvre si considérable que vous avez entreprise pour la louange de Dieu et l'illumination du monde ?»« Je ne puis plus, » lui répondait le maître. « Je ne puis plus, Réginald. De telles choses m'ont été révélées que tout ce que j'ai écrit me semble de la paille. Maintenant, j'espère de la bonté de mon Dieu que la fin de ma vie suivra de près celle de mes travaux. » Saint Thomas parle ainsi sans amertume. Il n'y a que douceur en lui. Depuis le 6 décembre surtout, il est comme imprégné de la douceur de Dieu. Il est comme ébloui par la vision de sa beauté. Un peu de la beauté divine lui a été montrée, et toute la beauté de ce monde en a été éclipsée à ses yeux. Les chefs-d'œuvre des hommes, les manuscrits les plus précieux, et même les chefs-d'œuvre de Dieu, les fleurs, le soleil, le ciel étoilé, ont perdu pour lui tout leur charme. Et l'œuvre à laquelle il a voué sa vie, que Dieu a voulu, que Dieu a béni, où Dieu a collaboré par sa grâce aux travaux du saint, répondant par le don de la lumière et de la vérité à ses prières et à ses larmes, même cette œuvre ne peut plus le retenir. Incomplète à nos yeux, aux yeux de Dieu, elle est achevée. Frère Thomas le sent. Bientôt, Dieu lui dira de venir. Bientôt, il entrera dans la joie du Seigneur. Il n'a plus rien à faire ici-bas. Le saint a hâte de mourir. L'ange de l'école où saint Thomas d'Aquin racontait aux enfants par Raïssa Maritain. J'espère que ces extraits vous donneront envie de lire ce petit fascicule fait pour les enfants, c'est-à-dire pour les adultes qui ont un cœur d'enfant. Pourquoi Jacques peut-il défendre ainsi Maritain pour aujourd'hui? Peut-être en raison de cet inachèvement de la Somme. La Somme est achevée aux yeux de Dieu, elle ne l'est pas aux yeux des hommes, mais cela lui permet d'être toujours en train d'être approfondi. Et Jacques va s'arrêter dans le Docteur Angélique, qui a plusieurs chapitres, et le chapitre 3 défend l'apôtre des temps modernes, c'est-à-dire la possibilité pour saint Thomas d'Aquin d'éclairer notre siècle. Maritain, bien sûr, écrit en 1930, mais pour le siècle des années 2000, cela vaut aussi. À preuve, Maritain voit chez saint Thomas d'Aquin une intelligence éclairée par la grâce qui vaut de manière suprahistorique, suprasensible, supratemporelle, comme un repère pour tous les temps, tous les hommes. Apôtre de l'intelligence, docteur de la vérité, restaurateur de l'ordre intellectuel, saint Thomas n'a pas écrit pour le XIIIe siècle. Il a écrit pour notre temps. Son temps à lui, c'est le temps de l'esprit, qui domine les siècles. Je dis qu'il est un auteur contemporain, le plus actuel de tous les penseurs. Il adhère si purement à la haute lumière de la sagesse qu'il se trouve, à l'égard des sciences inférieures et de leurs ombres mouvantes, dans une liberté que nul philosophe n'a connue. Tout le revêtement sensible emprunté à la science du XIIIe siècle peut tomber. Sa doctrine philosophique et métaphysique demeure aussi intègre que l'âme une fois séparée du corps. Et peut-être le dépouillement dû aux révolutions opérées dans la science des phénomènes depuis Nicole Oresme, Vinci et Galilée était-il nécessaire pour porter le thomisme à l'état de spiritualité, donc d'efficacité, qui répond vraiment à l'élévation spirituelle de la pensée même de saint Thomas. Il est placé au croisement de nos routes. Il tient la clé des problèmes qui oppriment notre cœur. Il nous apprend à triompher à la fois de l'anti-intellectualisme et du rationalisme, du mal qui déprime la raison au-dessous du réel et du mal qui l'exalte au-dessus. Il nous donne le secret du véritable humanisme, du suprême développement de la personne humaine et des vertus intellectuelles, mais dans la sainteté, non, dans la concupiscence, par l'esprit et par la croix, non, par les grandeurs de chair. À une époque profondément travaillée par le désir, trop souvent divagant et répandu sur les choses d'en bas, d'un règne du cœur et d'une vie d'amour, il enseigne la seule doctrine qui affirme le primat pratique, absolu, de la charité dans notre vie et qui nous invite au festin du véritable amour, je dis de la charité surnaturelle, sans pourtant renier l'intelligence et sa supériorité métaphysique, ni adultérer la charité elle-même en la contaminant de passions toutes humaines ou d'ambitions de clan. La charité doit toujours grandir en vertu du premier précepte, c'est pourquoi la perfection de la charité tombe sous le précepte, comme la fin vers laquelle chacun doit tendre selon sa condition. Telle est la loi de gravitation que le docteur Angélique enseigne à un monde d'autant plus hanté par l'idée du progrès qu'il ignore généralement en quoi le progrès consiste. Page absolument emblématique de toute la philosophie de Jacques Maritain. C'est une philosophie qui vient d'une conversion et Maritain va traduire cette conversion en une vocation. Il a enfin trouvé sa vocation de philosophe qui s'écrit « Malheur à moi si je ne thomistise pas ». Pour rappel, en 1905, Maritain est agrégé de l'université en philosophie. Cela veut dire qu'il connaît parfaitement la philosophie, tous les philosophes. Il faut vous lire un peu ses copies, lisez sa copie de baccalauréat dans les œuvres complètes, hein. On est impressionné. C'est quelqu'un qui a une capacité intellectuelle hors du commun et qui n'est pas croyant à l'époque. C'est la grande différence avec un séminariste qui va avoir des études de philosophie d'abord, puis de théologie ensuite, mais qui aura saint Thomas comme référence en premier lieu et simplement un résumé en une heure qui est Kant, en une heure qui est Hegel. Donc c'est à partir de résumés simples, et ce n'est pas dans une immersion totale philosophique. La vertu de Maritain, à mon sens, c'est d'être justement un laïc qui vient de la philosophie universitaire telle qu'elle était enseignée au début du XXe siècle et qui a fait ses preuves. Et du coup, la conversion donc, qui date de 1906 avec son baptême, le 11 juin 1906 à Montmartre, suivie dans les années 1908 de la découverte de saint Thomas d'Aquin et ensuite de ce motu, « Malheur à moi si je ne thomistise pas », donne à Maritain une épaisseur, on va dire. Il sait de quoi il parle quand il parle de kantisme, de rationalisme. Il a lu Comte, il n'a pas eu un résumé sur ce qu'est Auguste Comte. À preuve, ce grand écrit, cette troisième somme, on va dire, de Maritain, pour moi, il y a trois sommes. Hein. 1932, distingué pour unir les degrés du savoir, c'est une somme des savoirs. Ensuite, vous avez une deuxième grande somme, c'est, on va dire, l'art, l'intuition créatrice dans l'art et la poésie, en 1953 pour la version américaine, et puis plus tard pour la version française. Et puis en 1960, la morale, c'est un écrit qui fait l'historique, finalement, des philosophies morales, et qui revient sur Socrate, Platon, Aristote, etc., à partir de textes. Donc Maritain peut le faire, et finalement, il propose un thomisme qui est un troisième homme. Cette expression est de Étienne Fouilloux, qui montre que dans la crise moderniste, l'Église peut se servir de saint Thomas d'Aquin comme d'un rempart. Et finalement, une troisième voie, un troisième homme est proposé par Maritain. Et c'est pour cela qu'il est important de le relire presque 100 ans après, dans cette perception, j'allais dire, immédiate de saint Thomas d'Aquin, puisque toute l'œuvre de Maritain promeut le thomisme, mais pas de manière immédiate, comme le veut le docteur Angélique, où on est vraiment dans un écrit qui s'attache à Thomas. Un auteur contemporain de Raïssa et de Jacques, Éric Satie, Maritain l'a accompagné dans ses derniers moments, nous permet de méditer un peu sur ce propos. Les morceaux en forme de poire pour quatre mains de Erik Satie. Quelle est la modernité de saint Thomas d'Aquin? Déjà, Guillaume de Tocqueau ne se lassait pas d'insister sur la modernité de frère Thomas, écrit Maritain, dans L'apôtre des temps modernes, troisième chapitre du docteur Angélique. À vrai dire, cette modernité est à l'antipode de la modernité qu'on recherche aujourd'hui et en laquelle on se complaît. Car saint Thomas fait du nouveau, par accident, ne voulant faire que du vrai. Au lieu qu'aujourd'hui, on fait du nouveau en voulant le nouveau comme tel, et c'est le vrai qui n'est plus qu'un accident. Dès lors, on vise beaucoup plus à détruire l'ancien qu'à l'améliorer, et à exalter l'originalité de chaque sujet, pensant qu'à conformer la pensée à l'objet, c'est le renversement complet de l'ordre. Cette méthode essentiellement particulariste et négative est en réalité essentiellement rétrograde. Toutes les vérités acquises doivent être mises en question l'une après l'autre. Maritain, auteur de « Anti-moderne », est éminemment moderne parce qu'il s'oppose à la mode. C'est le sujet principal de « Anti-moderne ». Ici, on a encore une progression, on est en 1930, c'est que la modernité, c'est permettre le sujet. Le sujet qui rend le vrai accidentel et le nouveau essentiel. Alors que saint Thomas d'Aquin, en cherchant la vérité, fait du nouveau par approfondissement d'une tradition dont il hérite ou d'un héritage. C'est donc la nouveauté de saint Thomas d'Aquin et le fait de l'inachèvement de la somme est comme un appel à engager la pensée à partir de saint Thomas dans une réflexion plus profonde. La méthode de saint Thomas est de ce fait essentiellement universaliste et positive. Elle vise en effet à conserver tout l'acquis humain pour y ajouter et le parfaire, et elle comporte l'effacement de plus en plus complet de la personnalité du philosophe devant la vérité de l'objet, écrit saint Thomas. Vous le voyez, saint Thomas a laissé la somme inachevée, comme s'il s'effaçait dans son dialogue avec Dieu. Et c'est un peu ce modèle-là qui doit être le modèle de l'acte philosophique où le philosophe s'efface devant la vérité. Alors, que dire de l'apport de Aristote ? Aristote est transmis à l'Occident, latin, par les Arabes. Et c'est vrai que Maritain y voit une grandeur. Mais il la nuance, il montre finalement le génie de saint Thomas qui a été de prendre un Aristote qui n'a pas été revu par les Arabes et de sortir de la lecture arabe. S'il s'attache à Aristote, ce n'est pas parce qu'il voit en lui un penseur à la mode, récemment importé par les Arabes. C'est parce qu'il a reconnu en lui le meilleur interprète de la raison naturelle, qui a établi la philosophie sur des fondements conformes à ce qui est. Et il ne le suit qu'en le jugeant à chaque instant, en le rectifiant et purifiant à une lumière plus haute, qui n'est pas celle d'Aristote, mais celle de la sagesse incarnée. S'il combat les disciples trop matériels de saint Augustin, ce n'est pas pour détruire saint Augustin, c'est pour le suivre et le comprendre d'une façon plus vivante et plus profondément fidèle, dans un plus parfait commerce d'esprit. Aussi bien, nul théologien n'a-t-il eu de la commune et séculaire sagesse dont l'Église est divinement instruite une plus attentive dilection. Vous voyez les mots, dilection, c'est un amour d'énamoration, de choix, de préférence. Voilà pourquoi le docteur angélique est aussi le docteur commun de l'Église. Docteur commun, titre admirable, qui manifeste une grandeur, à vrai dire, surhumaine, qui met à leur place tous nos tristes amours propres et qui répond aux plus urgentes nécessités de l'heure. Ce n'est pas d'un docteur spécial, ni d'un docteur particulier, ni d'un docteur original, ni d'un docteur propre à notre personne ou à notre famille. Ce n'est pas d'un docteur illuminé ou dévot ou subtil ou irréfragable ou resolutissimus ou eximius ou d'un veneralis inceptor. C'est d'un docteur commun. C'est du docteur commun de l'Église que nous avons besoin. Il est debout, au seuil des temps modernes, nous tendant, en la corbeille ouvragée de ses milliers d'arguments, les fruits sacrés de la sagesse. À la semaine prochaine.